c'est pas un beau générique, ça.
c'était pas mal, c'était une belle entrée en matière. Allez, souviens-toi, c'était il y a 2 mois, et pour faire plaisir à tes parents, tu avais accepté d'assister au repas du baptême du petit dernier de ta cousine. Passé les profiteroles, on se remémore les jurons anticléricaux de ton grand-père communiste, quand tout à coup ton oncle par alliance, Francis, dentiste de son état, t'apostrophe de sa verve savoureuse. Au fait, maintenant que tu es installé, c'est fini tout ça, t'y crois plus à ces histoires de classe sociale. Bon, pas assez sous pour lui balancer ta dernière profiterole sur la gueule, mais assez en forme pour ne pas te contenter d'un petit signe de mépris, d'épité, tu te lances à l'ajout oratoire. Tu commences assez mollement et sans précision par des « c'est pas ce que me disait le SDF en bas de chez moi » ou des mesquins « c'est évidemment plus facile quand on a une maison de vacances, une femme de ménage et tout le toutim ». Et puis les choses deviennent sérieuses. Tu balances ton premier argument massue en référence au Front populaire. Les vacances. Selon l'INSEE, 9 cas sur 10 vont se dorer la pilule en vacances chaque année alors qu'un ouvrier sur 2 ne peut même pas aller au camping ou chez Tata Roberta dans la banlieue d'Orléans. Et attention, ce que l'INSEE appelle des vacances, c'est juste 4 nuits en dehors. Le temps de déballer la valise, vider des bouteilles de pastaguette, remballer le tout. Mais l'oncle détartreur ne s'en laisse pas compter et de te répondre que s'il n'achetait pas des voitures aussi chères, il pourrait peut-être aussi y aller en vacances. Alors là, mon petit gars, un petit conseil de tactique de révolution de salon. Tu gardes bien au chaud l'argument de l'accès à l'école pour la suite des événements ou pour un prochain Noël. Par contre, c'est le moment d'enfoncer le clou de la lutte des classes par un « et les salaires, t'en fais quoi des salaires ?» Si tu prends rien que les salariés à temps complet, les cadres y gagnent 3 600 € par mois alors que les employés ont 1 300 € pour vivre. Et ça représente quoi 1 300 €? C'est à peine ce que les professions libérales font en noir toutes les semaines, renchirais-tu perfidement. Ça y est, tu tiens la corde, c'est le moment de sortir le bon vieux, sans trop fignoler sur les modes de calcul. Les cadres ont une espérance de vie de 81 ans alors que les ouvriers et les employés peuvent pas trop espérer dépasser en moyenne la barre des 75 ans. Bon joueur, tu rappelles que la différence est un peu moindre pour les femmes, mais qu'il a valu 20 ans pour gagner 2 ans d'espérance de vie. Et là, tu sens que tout le monde t'écoute à table, et que tu as lu les enquêtes en plus de Annie Thébault. Donc tu peux leur dire que chez les hommes de 45 à 54 ans, le taux de mortalité par cancer est 4 fois plus élevé chez les ouvriers non qualifiés que chez les cadres. Là, je dis gros argument massue. Silence à table. Mais sortie du diable Vauvert, Myriam, qui sent son mari vaciller, intervient avec le célèbre bah « déjà s'il fumait moins et qu'il buvait moins ». Et tu sens bien qu'elle va te redire qu'elle retrouve des mégots de son jardinier dans son potager. Mais tu avais tout prévu. Et tu lui dis que c'est vrai que proportionnellement, il y a 20% de fumeurs en plus chez les ouvriers que chez les cadres. Ça, on ne peut pas le nier. Mais en revanche, l'excès de risque de mortalité précoce par cancer chez les ouvriers par rapport aux cadres est de l'ordre de 200%. Je te répète la phrase, puisque tu es quand même un dîner, tu as quand même déjà un petit peu bu, tu te la mets bien en tête. Donc l'excès de risque de mortalité précoce par cancer chez les ouvriers par rapport aux cadres est de l'ordre de 200%. 200%, 20%. Comme quoi, tu vois, les ouvriers ont au moins quelque chose en plus, la probabilité d'attraper un cancer. Ça, c'est de la grosse massue. Et comme tu as la main, tu continues. Tu lui parles du fait que les médecins en France considèrent toujours que les cancers des ouvriers sont dus à leurs mauvaises habitudes ou à des conditions génétiques, mais pas à leurs pratiques professionnelles. Tu parles du racisme de classe, des idées préconçues, du fait que la recherche a alimenté les enquêtes sur le tabac et pas sur les conditions de travail, que les industriels interviennent beaucoup pour modifier les critères scientifiques de classement des cancérogènes et ainsi diminuer le cas de maladies professionnelles. Tu parles aussi de l'absolue méconnaissance des conditions de travail des ouvriers par les médecins, alors qu'ils sont souvent exposés, les ouvriers, pas les médecins, à des agents cancérogènes comme l'amiante, les hydrocarbures utilisés dans les goudrons de route, les acides, les solvants chlorés qu'on utilise dans les produits de nettoyage, notamment les femmes de ménage, les fumées de soudage, la silice, etc. Bref, le voilà le bec cloué, le Francis. Et tu reprends là-dessus une bonne lampée de pelle forte en te disant qu'il n'y a pas de petits combats et pas de petites victoires. Mais c'est à ce moment-là que tu entends Francis dire que le voisin de son père, il a travaillé toute sa vie dans les chantiers navals avec de l'amiante et qu'il est mort à 80 ans, alors que son beau-frère, avocat, est mort d'un cancer de la rate à 42 ans. Et face à ce genre de gros blaireau, il n'y a qu'une solution. Tu prends juste la massue et tu laisses un peu tomber l'argument.